secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Dime. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Jean-Richard Dufour. Aujourd'hui, je reçois Éric Mangin pour parler de Maître Eckhart. Éric Mangin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et théologien, spécialiste et traducteur de Maître Eckhart. Vous avez déjà traduit plusieurs ouvrages sur Maître Eckhart. Et je vous invite aujourd'hui pour parler de vos deux derniers. Maître Eckhart ou la profondeur de l'intime, aux éditions du Seuil, qui est donc un essai sur Maître Eckhart. Et puis, Le silence et le verbe, ce sont la traduction et la présentation des sermons 87 à 105. Nous avons dont un certain nombre de sermons inédits qui n'avaient jamais été traduits en français. Alors, je suis très heureux de vous inviter parce que Maître Eckhart est quelqu'un de tout à fait passionnant et qui je suis sûr que nos auditeurs vont être ravis de découvrir. Mais avant de rentrer dans sa pensée, dans son œuvre, j'aurais aimé qu'on rappelle un petit peu, qu'on prenne un peu le temps de rappeler qui est Maître Eckhart. Donc rappelez-nous un petit peu déjà son parcours biographique.
Oui, bien sûr. Alors Maître Eckhart est un grand intellectuel de la fin du Moyen-Âge. On va dire qu'il est né vers 1260, il est mort vers 1328, 1327. Et pour faire simple et ne pas se noyer dans les dates, peut-être qu'il faut distinguer dans sa vie deux pans différents. Un premier pan, celui du maître spirituel dans la vallée du Rhin. Et on peut retenir trois villes. La ville d'Erfurt, avec le grand couvent dominicain, un des plus réputés d'Allemagne du Nord. La ville de Strasbourg, ensuite, où il va rencontrer les Begin, tout un style de littérature. Et puis enfin la ville de Cologne, à la fin de sa vie. Ça, c'est vraiment pour le maître spirituel, qui va avoir des charges très importantes dans son ordre, l'ordre dominicain, auprès des couvents de dominicains, auprès des couvents de dominicaines, donc jusqu'à la fin de sa vie, où il sera responsable du studium, c'est-à-dire des études, où il forme les futurs dominicains d'Allemagne. C'est la grande époque des couvents dominicains, c'est une période de pleine expansion aussi de la vie spirituelle, c'est une très belle époque à découvrir. Le deuxième pan qu'il faut connaître, c'est celui de l'universitaire. Il est venu enseigner à deux reprises à l'Université de Paris, qui est alors une des plus grandes universités d'Europe. Qui deviendra la Sorbonne, oui, une des plus grandes universités d'Europe, une des plus prestigieuses. C'est là qu'on envoie les étudiants les plus brillants. Et dans cette université, il y a une grande tradition. Il y a eu Thomas d'Aquin, Albert le Grand, une tradition d'articulation entre théologie et philosophie. Il vient enseigner à deux reprises. Je le dis parce que c'est assez exceptionnel. En général, on va enseigner une fois un an à l'université. Or lui, il est le seul, avec Thomas d'Aquin, à avoir enseigné à deux reprises à Paris. Ce qui va donner dans son œuvre deux langues différentes, les œuvres universitaires en latin et les œuvres pour le peuple en langue allemande.
Alors, je crois aussi qu'il avait donc un certain impact, pas seulement auprès de ses frères dominicains ou des étudiants, mais qu'il y avait tout un public qui venait assister à ses sermons lorsqu'il prêchait et qu'il a eu exercé également une influence autour de personnages qu'on appelle les Begin. Est-ce que vous nous en dire un mot ?
Un mot, non, beaucoup plus.
Beaucoup plus, parce que je trouve que c'est passionnant.
C'est la période de Strasbourg, donc c'est la période pour lui, au fond, de grande maturité intellectuelle et spirituelle. Après son retour de Paris, il est nommé vicaire général auprès du maître de l'ordre. Il réside à Strasbourg. Il doit s'occuper des 80 couvents de dominicaines dans la vallée du Rhin. c'est déjà énorme, parce que les Dominicaines ont une culture extraordinaire. Elles connaissent très bien la littérature des Béguines. Prenez par exemple aujourd'hui le musée d'Unterlinden à Colmar. C'est un bon exemple de ce qu'était un couvent de Dominicaines à l'époque de Maître Eckhart. Et puis, à Strasbourg, on lui confie les 80 béguinages de la ville. Alors les béguinages, ce sont des petites structures à l'intérieur des villes, des petites structures où des femmes qui ne sont ni épouses ni religieuses vivent pourtant dans une petite communauté. Elles ont une vie spirituelle, une vie intellectuelle vraiment très intense, une vie caritative également dans les villes et certainement à Strasbourg en particulier. Et là, sans doute qu'on le nomme avec cette responsabilité de surveiller un peu ce qui se passe auprès de ces femmes quand même.
Et oui, qui échappe un peu à l'institution effectivement.
Ah ben elles échappent à toute institution, parce que le Moyen-Âge est un monde extraordinaire, mais on aime bien que les choses soient dans l'ordre. Or là, voilà des femmes qui ne sont ni épouses ni religieuses. Donc c'est, voilà, il faut bien voir ce qu'elles font. Alors là où c'est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'y va pas du tout pour dire absolument ce qu'il faut faire, ni pour cadrer un peu les choses. Il y a un véritable dialogue qui s'institue, et il ne va pas simplement leur donner des bases théologiques par rapport à leur littérature. Il va lui aussi se nourrir considérablement dans sa prédication et dans sa langue allemande de toute la littérature des Béguines. Je pense qu'on y reviendra, mais par exemple, une grande notion qu'on trouve chez Maître Eckhart, celle de fond sans fond, elle n'est pas de lui, elle est d'Advige d'Anvers. Voilà. Et c'est sans doute par le biais des béguinages, par cette voie-là, qui va intégrer la littérature des Béguines dans sa propre littérature allemande. Parce que ça, c'est aussi un point important. C'est aussi un grand écrivain de la langue allemande. C'est quelqu'un qui a forgé...
Oui, avant la réforme, il a beaucoup écrit.
Exactement. Oui, oui. Il n'a pas simplement transposé des termes latins dans la langue allemande, il a aussi créé tout un vocabulaire allemand nouveau qui n'existait pas. Luther, par exemple, quelques années plus tard, lira des textes mystiques et sans le savoir, il lira du Maître Eckhart en disant que voilà un grand auteur très important dont il faut absolument reconnaître la grandeur. Et s'il est capable de créer des choses, il ne les crée pas à partir de rien, il les crée aussi en dialogue avec la culture de son temps, la culture profane, la culture littéraire de son temps.
On a assez souvent l'habitude de dire que l'œuvre latine de Maître Eckhart est assez scolaire, assez didactique, et que l'œuvre allemande est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus personnelle. Est-ce que ça tient à la langue ou est-ce que ça tient aux auditoires différents qu'il avait ?
Ah ! C'est à la fois vrai, c'est à la fois pas tout à fait vrai. Oui, c'est une œuvre universitaire, donc elle est déjà codée en quelque sorte.
L'œuvre latine, là, on parle.
L'œuvre latine. Par exemple, à l'université, il y a trois grands exercices. Tout d'abord, la lecture. Le matin, le maître procède à la lecture du texte. Ensuite, la question disputée, c'est-à-dire on débat sur le texte. Et puis le soir, c'est un peu le récapitulatif. Ce sont les commentaires ou les sermons ou les grandes sommes théologiques qui reprennent l'ensemble. Et Maître Eckhart, on retrouve chez lui tous ces exercices latins tout à fait classiques dans son œuvre latine. Les sermons, par exemple, c'est une grande reprise, les sermons latins. C'est une grande reprise universitaire avec un exposé des grands maîtres de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut penser. Mais quand même, déjà, il y a chez lui une grande poésie. Quand il écrit son œuvre latine, ses sermons latins, ils sont très poétiques. Alors évidemment, la traduction française est très difficile, a du mal à rendre cette poésie, mais le latin est déjà très poétique, comme l'œuvre allemande. Donc il ne faut pas complètement les séparer. Et puis je trouve que ce qui est très intéressant pour bien comprendre la scolastique, c'est que quand il veut expliquer quelque chose, par exemple, quand il veut expliquer un verset de l'écriture, il donne le premier sens, le deuxième sens, le troisième sens. Puis après, au bout de 7, 8, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est compliqué. Peut-être que ce qu'il veut montrer, c'est qu'expliquer, c'est montrer la complexité d'une chose. Et ça, ben, c'est presque comme une œuvre d'art, c'est presque comme de la musique en quelque sorte. Donc je ne détache pas tant que ça son œuvre latine de son œuvre allemande. Maintenant, il est vrai que son œuvre allemande, alors là, il se livre à une grande liberté dans l'expression, dans les images, dans la créativité verbale.
Oui, et puis d'ailleurs, tout ce qui est connu par le grand public de Maître Eckhart, tout ce qui nous marque aujourd'hui, ce qui nous apparaît moderne, c'est dans l'œuvre allemande, ce sont les sermons allemands.
C'est vrai, ah oui, c'est eux qui ont immédiatement une grande... Alors c'est curieux parce que c'est aussi ces sermons allemands, il faudra peut-être qu'on en parle un petit peu, qui ont connu des difficultés avec le procès qu'il a eu. Voilà. C'est à la fois eux qui connaissent une grande postérité et qui posent aussi questions.
Alors on va en parler, c'est très bien, parce que effectivement, il a mal fini, Maître Eckhart. Racontez-nous un peu la fin de son, son parcours. Donc il a un rayonnement extraordinaire. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est connu dans, j'imagine, toute l'Europe, qui a une influence considérable. Oui. Pourquoi ça se termine mal ?
Alors, pourquoi ça se termine mal ? Je ne sais pas si ça se termine mal.
En tout cas, il n'a jamais été canonisé, il y a eu des gros problèmes, il y a eu un procès, donc racontez-nous tout ça.
Alors, à la fin de sa vie, on va dire qu'il est à Cologne. Et à Cologne, on lui confie les études, les grandes études des dominicains. C'est donc une responsabilité énorme et on ne confierait pas une telle responsabilité à quelqu'un dont on a des soupçons d'hérésie au niveau de la théologie. Ensuite, il va y avoir plusieurs vagues dans le procès. Il va y avoir auprès de ses collègues dominicains quelques questions, quelques doutes, quelques suspicions. Et donc Nicolas de Strasbourg va venir faire une enquête.
C'est qui Nicolas de Strasbourg ?
C'est un dominicain qui va venir enquêter, voir un peu ce qu'il en est de Maître Eckhart. Et au bout d'un moment, la chose va prendre une certaine ampleur. C'est ensuite, deuxième étape, l'évêque de Cologne qui va commencer à instruire un procès de Maître Eckhart. Et puis ce procès qui ne peut plus être contenu par l'iconat de Strasbourg va être conduit à Avignon auprès du pape dans un troisième temps. Voilà. Et Maître Eckhart ni son œuvre ne sont pas condamnés, c'est juste quelques propositions. Et ça n'est pas sa théologie en elle-même qui est condamnée, c'est le fait qu'il exprime des réalités spirituelles très hautes à des personnes, à des laïcs, voilà, en langue du peuple. Voilà. Donc c'est plutôt ça qui est critiqué. Oh, peut-être qu'il y a eu un peu de jalousie aussi de la part de ses camarades, parce qu'il est brillant. Voilà. Peut-être y a-t-il eu aussi un conflit entre les prêtres et puis les dominicains qui sont du côté du pape, les prêtres qui commencent à être du côté de l'empereur. Peut-être qu'il y a aussi des raisons politiques, mais la raison la plus juste, c'est celle-là. Ce n'est pas sa théologie qui est remise en cause, ce n'est pas sa pensée,
certaines expressions.
C'est le fait qu'il s'exprime dans la langue du peuple, et ça c'est vrai, c'est nouveau, des réalités... qu'en fait le peuple comprend et apprécie. C'est donc son succès qui, en quelque sorte...
Lélie Anvar, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, d'ailleurs, vous citez plusieurs fois aussi Marguerite Porret. Et en fait, c'est ça l'enjeu. C'est que même Marguerite Porret, qui sera brûlée vive, finalement, c'est pas ce qu'elle dit fondamentalement qui est remis en cause, mais c'est le fait qu'elle le dise publiquement et à des gens qui sont peut-être pas capables... d'entendre. C'est vraiment
pour
ça l'enjeu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
l'institution,
elle pourrait, si ça restait dans un cercle fermé, bon, après tout, une hystérie d'une mystique dans son coin, c'est pas grave. Le problème, c'est la publicité. Le problème, c'est que ça peut amener le trouble et le tumulte. Et c'est très intéressant que Maître Eckhart soit inquiété parce qu'il dit en langue vernaculaire des choses que tout le monde, donc, peut écouter et éventuellement entendre dans les deux sens du terme.
Et très certainement comprendre.
Ou pas, parce qu'il dit quand même très souvent dans ses sermons, si vous n'avez peut-être pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Petit à petit, vous comprendrez. Il est quand même conscient que tout un chacun ne peut peut-être pas comprendre le sens profond de ses sermons, non ?
Oui, parce que... Alors oui et non, je pense qu'il il avait en grand respect les personnes à qui il a fait ses sermons, parce qu'il ne leur facilite jamais la tâche. Voilà, donc ses sermons sont pas forcément très simples, même s'ils sont très beaux et très bien écrits, ils ne leur facilitent pas la tâche, c'est-à-dire qu'il les tient en estime, il les tient capables de comprendre quelque chose. Mais en même temps, pour lui, et ça explique bien ce qu'est la rationalité, pour lui, expliquer une chose, expliquer une réalité, c'est montrer combien elle est complexe. On n'aura jamais fini, au fond, d'expliquer une réalité. C'est ça la rationalité pour lui. La rationalité pour un homme de la modernité, au fond, c'est pouvoir s'approprier une réalité. Pour lui, essayer de comprendre, essayer de penser une chose, c'est montrer combien une chose est complexe. Voilà.
En ce sens, c'est presque scientifique, hein, dans le sens moderne.
Absolument.
Du terme, oui.
Voilà. Donc, quand on commence à toucher du doigt du mystère, on n'est peut-être pas très loin de la vérité, et en même temps, on est infiniment loin.
Et est-ce que vous ne croyez pas aussi que dans la condamnation de certaines thèses de Maître Eckhart, ce sont aussi les béguines qui sont visées ? Parce que quand on va voir ce qui va se passer après, où elles vont être éradiquées, où il va y avoir quasiment une forme d'inquisition très puissante contre les béguines, est-ce que déjà il n'y avait pas dans cette condamnation de Maître Eckhart ce souci qu'il avait d'encourager le béguinage, d'encourager ces laïcs en leur transmettant un enseignement spirituel, en se nourrissant de cet enseignement ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'indirectement, c'est elles qui sont déjà visées ?
Alors, lorsqu'il est nommé à Strasbourg, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a quelque chose qui secoue un peu l'Église, c'est ce qu'on appelle l'hérésie du libre-esprit. On ne sait pas trop ce que c'est que le libre esprit en réalité, et on ne sait même pas si ça existait à l'heure que dans la tête des censeurs. Mais enfin, la vie spirituelle est en pleine explosion, un peu partout, et certains considèrent que la liberté, et la perfection en particulier, consiste à s'affranchir de tout, y compris de la pratique des vertus, y compris de la pratique des sacrements. Voilà. Donc c'est une forme de une conception de la liberté qui est un peu forte. Alors, est-ce que ce sont des sectes, une secte qui a vraiment existé à Strasbourg, ou est-ce que c'est simplement quelques courants un peu excessifs dans certains monastères, dans certains béguinages? C'est peut-être plutôt la deuxième réponse qui est juste. Et donc Maître Eckhart est nommé à Strasbourg justement pour répondre en quelque sorte, pour faire quelque chose par rapport au libre-esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que son discours n'est pas du tout un discours de condamnation. Il va écrire le très beau sermon 86 sur Marthe. Tout simplement pour rappeler que la véritable vie spirituelle, la véritable perfection, c'est pas d'être, de décoller dans le ciel, c'est de rester bien les pieds sur terre, dans l'action, dans l'agir, dans la pratique quotidienne de tous les jours. Voilà. Donc c'est une très belle réponse, c'est très respectueux. On voit bien que par derrière, il y a le libre-esprit qui est en cause, parce que tous les termes qu'il emploie, justement, pointent justement sur ce risque de considérer la liberté comme le fait de tout abandonner dans le quotidien. Et lui, il montre au contraire que Marthe est une figure de femme vraiment libre, parce qu'elle est capable d'être à la fois parfaitement enracinée en Dieu et parfois parfaitement disponible pour le service qu'elle accomplit. Et ça va produire quand même des fruits, parce que l'évêque de Strasbourg, quelques années plus tard, va écrire une très belle lettre où il autorise à Strasbourg la pratique de certaines béguines, à condition bien sûr qu'elles soient
bien encadré, bien suivi.
Non, qu'elle soit dans la ligne de la foi de l'Église.
Oui. Alors justement, pour continuer un peu de manière un peu plus radicale votre question, Frédéric, vous avez dit que ça c'était peut-être le béguinat qui était en jeu. Moi, je voudrais rebondir là-dessus en disant, c'est peut-être, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est le féminin qui est en jeu? Et là, on entre directement dans votre livre lui-même, hein, qui s'intitule « Maître Eckhart ou la profondeur de l'intime », et dont la couverture représente un très beau portrait de Marie-Madeleine, sur laquelle il a aussi écrit un très beau sermon. Et vous avez parlé tout à l'heure de la notion de fond sans fond qui était héritée de Hedwige d'Anvers. Et est-ce qu'il n'y a pas, consciemment ou inconsciemment, de la part des censeurs de Maître Eckhart, une résistance à la dimension féminine de sa pensée?
Ah, mais évidemment, il y a dans sa pensée, effectivement, la place de la femme a une grande importance. Je pense en particulier à un sermon où il parle du détachement, qui est quelque chose de très important dans sa pensée, et il prend l'exemple à la fois de... Il dit que l'esprit doit être à la fois vierge et femme. Vierge, c'est-à-dire complètement vide et séparée de tout, mais femme, c'est-à-dire capable d'enfanter en elle et de recevoir quelque chose. Et je ne sais pas si je peux le dire, mais le détachement, c'est ça pour lui. C'est être capable de se vider absolument de tout, pour devenir ce vide absolu dans lequel vient naître le Verbe de Dieu. C'est très simple, dit comme ça, c'est très beau. Et donc, de fait, il y a quelque chose d'assez féminin dans sa pensée. En tout cas, il redonne à la femme une place assez importante, sans aucun doute.
Voilà.
Alors, il y a d'autres sermons où il parle aussi de l'homme noble,
oui,
par exemple,
sûr,
qui sont des figures
sûr.
Classiques. Mais effectivement, il y a... Effectivement,
oui, ça, la femme, mais aussi le féminin.
Le féminin,
et comme par hasard, plus tard, Jean de la Croix se vivra comme l'épousé, Où Thérèse d'Avila sera inquiétée parce que c'est une spiritualité hautement féminine dans ce sens. J'entends pas de différence sexuelle, bien sûr, mais
oui.
Je parle de l'ordre symbolique. Et voilà, et il me semble que Maître Eckhart est quand même vraiment résolument du côté du féminin, précisément dans ce que vous appelez la profondeur de l'intime.
C'est vrai.
En fait.
Ouais.
Mais les deux sont vrais. Je pense qu'effectivement, il est du côté du féminin dans cet accueil, cet abandon, etc. Et en même temps, il est du côté des femmes aussi.
Ah oui, bien sûr.
Il soutenait aussi des initiatives de femmes qui étaient assez libres, finalement. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quand même quelque chose qui ne plaisait pas beaucoup à l'institution.
Alors, oui, il y a aussi les couvents dominicaines, hein, qui étaient très importants pour lui. Je ne sais pas trop ce que pensait l'institution en réalité.
Pourquoi elle ne l'a jamais canonisé? Moi, c'est une question immense. Parce qu'on a canonisé un tas de gens.
Tout le monde n'est pas canonisé.
Oui, mais enfin, la plupart des grands théologiens du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin et plein d'autres, ont été canonisés. Oui. Et pourquoi pas Maître Eckhart, vu le rayonnement qu'il a eu et la sainteté de sa vie. Enfin, on ne l'a jamais pris en défaut vrai, d'aller boire dans les tripots avec des prostituées et autres qui auraient pu expliquer la non-canonisation. Là, je trouve qu'il n'y a aucune bonne raison, si ce n'est qu'il a gêné l'institution. Pourquoi ?
Je ne sais pas s'il a gêné l'institution, parce qu'il a eu, jusqu'à la fin de sa vie, de lourdes responsabilités au sein de son ordre. Et l'institution, les dominicains, aussi bien que l'Église, lui ont confié des charges assez importantes. Simplement, à un moment donné, il y a des crises qui sont malheureuses, parce qu'elles sont le fruit de circonstances. Il y a des clashs. L'Église a aussi reconnu... Donc l'Église, d'un côté, a malheureusement condamné Marguerite Porret, c'est dommage. Mais par ailleurs, quelqu'un comme Advige d'Anvers, vous voyez, un rayonnement qui est tout à fait beau. Il y a des moments où ça passe pas, il y a des moments où c'est malheureux. Mon explication n'est pas très bonne, peut-être.
Non, je la trouve pas convaincante du tout. Surtout qu'il aurait pu l'être plus tard. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu le canoniser au XXe siècle.
Oui, où Jean de la Croix l'a bien été, effectivement.
Tout à fait, il a eu des soucis, plein de saints ont été canonisés ensuite. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un problème qui demeure entre ce qu'il a été, sa doctrine, et puis probablement une certaine vision institutionnelle que ça dérange. Donc vous n'avez pas vraiment de réponse là-dessus.
Oui.
C'est pas grave, on va parler après une pause musicale du contenu de son enseignement.
Au commencement, au-delà du sens, là est le Verbe. Ô le trésor si riche, où commencement fait naître commencement. Ô le cœur du Père, d'où à grande joie, sans trêve, flue le Verbe. Et pourtant ce saint-là en lui garde le Verbe, c'est vrai. C'est lumière, c'est clarté, c'est la ténèbre, c'est innommé. C'est ignoré. Libéré du début ainsi que de la fin, cela gît paisiblement, tout nu, sans vêtements, qui connaît sa maison, ah, qu'il en sorte et nous dise sa forme. Devient-elle un enfant, rends-toi sourd et aveugle, tout ton être doit devenir néant. Dépasse tout être et tout néant. Laisse le lieu, laisse le temps, et les images également. Si tu vas par aucune voie sur le sentier étroit, tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert. Ô mon âme, sors, Dieu entre. Sombre tout mon être en Dieu qui est non-être. Sombre en ce fleuve sans fond. Si je te fuis, tu viens à moi. Si je me perds, toi, je te trouve. Ô bien suressentiel.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie d'Éric Mangin. Nous parlons de Maître Eckhart à l'occasion de la sortie de son ouvrage Maître Eckhart ou la profondeur de l'intime au seuil et de la traduction inédite des sermons 87 à 105, le silence et le verbe. Lélian Var, vous venez de nous lire un magnifique poème. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors c'est un poème de Maître Eckhart que je vous remercie infiniment, Éric Mangin, de m'avoir fait découvrir. Je n'en ai lu que quelques extraits, mais c'est vrai que d'abord c'est magnifique. La traduction est excellente, je dois dire. C'est magnifique et je trouve que ça résume tout à fait cette pensée apophatique de Maître Eckhart. À la fois, ça va du commencement jusqu'à la fin et ça passe par ce néant qui est le tout, de cette idée que il faut se retirer pour que Dieu advienne. Donc voilà, est-ce que vous seriez d'accord avec le fait de dire que ce poème résume de manière tout à fait concentrée cette pensée si profonde et si complexe, comme vous le disiez, de Maître Eckhart ?
Oui, bien sûr, c'est un très beau texte qui permet de parler du détachement de l'âme. C'est vraiment quelque chose de très beau. Devenir comme un enfant, c'est tout un programme, c'est beau, mais c'est pas si simple. C'est un beau texte, le détachement pas seulement par rapport aux choses extérieures, parce que ça, à la limite, bon, par rapport à tout ce qui est intérieur, par rapport à toutes les formes, par rapport à toutes les images et représentations.
De Dieu, notamment.
De Dieu, voilà. Parce que bien sûr, quand nous avons des images de Dieu, ben, nous parlons en fait mieux de nous-mêmes que de Dieu en lui-même, qui est toujours inconnaissable en quelque sorte. Quand on dit que Dieu est bon, quand on dit que Dieu est intelligent, c'est parce que pour nous, la bonté ou l'intelligence, donc ça nous définit beaucoup mieux nous que Dieu. Donc il faut pouvoir saisir Dieu tout nu, sans vêtements, dit Maître Eckhart.
Il va très loin, il dit même Dieu qui est non-être.
Absolument, oui, oui.
Après Thomas d'Aquin qui a dit que Dieu était l'être premier, ça...
Absolument, parce que non seulement il faut dépasser les concepts théologiques de Dieu, Trinité, mais il faut dépasser aussi les concepts philosophiques de Dieu en tant qu'il est l'être, en tant qu'il est le bien. Mais peut-être plus dur encore plus dur que ça, c'est se détacher de soi. Parce que quand on se détache de tout, il reste quelque chose de très redoutable, c'est nous-mêmes. Voilà. Et quand on s'est détaché de tout, quand on a abandonné les rames qui tombent du bateau, en quelque sorte, eh bien, voilà, ce qui se produit, c'est la fin du texte. Moi, j'adore la fin du texte. Ce texte-là, évidemment, il pourrait être commenté, mais il ne faut pas trop le commenter parce qu'on l'abîme.
Oui, et en réalité, c'est pour ça qu'il l'a dit en poème, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire autrement.
Exactement, et c'est parce que ça ne peut pas être dit, justement, que la poésie évoque ce qui ne peut être dit. Mais la fin est très belle, ou plutôt toute la dynamique du texte est très belle, parce qu'au début, on regarde Dieu de l'extérieur, comme quelque chose de très beau, mais aussi de très terrifiant, ce commencement. Où tout commence, là où tout commence. Voilà. Et à la fin, ça se termine par ce « je » et ce « tu », cette grande proximité entre « je » et « Dieu ». Voilà. Entre « je », oui, entre « moi » et « Dieu ».
Tu viens
et
c'est, à moi c'est très si beau. Je me perds.
Voilà. C'est sur ce Dieu que nous ne pouvons jamais perdre. On peut bien avoir le sentiment de s'éloigner de lui. En revanche, lui n'est jamais très loin de nous. Et c'est cette proximité qui est retrouvée à la fin. Le terme du détachement, c'est qu'à un instant, les choses coïncident. C'est très beau parce que je crois que l'existence, c'est ça. C'est un texte spirituel, mais c'est un texte sur l'existence. C'est-à-dire que nous passons notre temps à courir après les choses. Un taxi ou n'importe quoi. Et nous sommes toujours distendus par des projets, par des activités. Voilà. Mais à un moment donné, c'est rare, c'est fragile, c'est éphémère. Les choses coïncident parfaitement. Et à ce moment-là, nous existons. C'est fragile, c'est éphémère, ça disparaît et la vie revient.
Et ce qui est très intéressant chez Maître Eckhart, c'est qu'on a quand même le sentiment du frémissement d'une véritable expérience. C'est-à-dire quand il dit « c'est la ténèbre et c'est la clarté », etc., on a vraiment le sentiment qu'il l'a traversé et qu'il a cherché à trouver les mots pour le dire. C'est pour ça qu'il écrit tant, et il écrit en poème, en allemand, en latin.
Oui.
Il tourne autour de cela, et alors vous le montrez dans votre essai,
oui.
C'est qu'il tourne autour de cette profondeur de l'intime et autour de cette question qui est finalement la question... fondamentale pour quelqu'un qui transmet, mais comment dire cette chose incroyable qui advient dans la plus grande profondeur de son intimité. Donc c'est aussi une réflexion sur le langage, sur la vérité, sur le langage
et
sur l'impossibilité de dire. Et pourtant, il faut quand même essayer de le dire.
Bien sûr, parce que c'est tellement important qu'il faut le dire. Mais peut-être aussi que ce qui est important, c'est cette étape, c'est très important. De reconnaître qu'il y a dans la réalité des choses inconnaissables et indicibles, parce qu'on prétend toujours savoir tout sur tout, et ça forge des dogmatismes épouvantables, ça. Mais reconnaître qu'il y a dans la réalité des choses indicibles, c'est une étape décisive d'humilité, de pauvreté, et en même temps, c'est le début de l'écriture, c'est ce qui fonde l'écriture. Pourquoi est-ce qu'on écrit ? On n'écrit pas pour décrire, de même que la vraie parole, en fait, elle n'est pas faite pour parler. On écrit quand on a saisi qu'il y a quelque chose de parfaitement impossible. C'est là que commence la véritable écriture. Sinon, on fait de la description, sinon on fait de la parlotte, en quelque sorte. Mais la véritable écriture commence quand on a conscience de cette indicibilité. Et la poésie, il dit très bien, toute son écriture, vous avez raison, tous ses sermons, ce sont des variations infinies autour d'un thème qu'on ne peut pas dire. C'est comme de la musique, Maître Eckhart, c'est un grand écrivain. Voilà. C'est comme de la musique, c'est comme une œuvre d'art. On ne fait qu'évoquer au mieux quelque chose dont on ne pourra jamais pleinement saisir. Giacometti dit ça très bien. C'est la même expérience quand il parle de son expérience esthétique. Il dit « J'ai vraiment commencé à être un bon artiste. il faisait des portraits d'un philosophe japonais. Et il dit, j'ai vraiment commencé à devenir un bon artiste, un bon peintre, quand j'ai compris que ce que je devais faire, c'est ce que je devais peindre, c'est ce qu'il y a d'inatteignable dans la figure humaine. Alors, du coup, évidemment, c'est à la fois énorme, impossible, ça devrait être très difficile à vivre sur le plan psychologique, très déstabilisant, mais c'est ça l'écriture, cet esprit-là.
Moi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement puissant chez Maître Eckhart qui nous rejoint. C'est à la fois effectivement ce que vous dites sur le fait que c'est une expérience, c'est-à-dire que ça nous aide à vivre, c'est concret, ça nous parle de notre vie spirituelle à nous, de comment faire dans la vie spirituelle. Et donc c'est un homme qui parle de la vie intérieure et on est tous concernés, enfin tous ceux qui sont dans une démarche spirituelle sont concernés par la vie intérieure. Et son langage est tellement profond qu'il touche à l'universalité. Et je vais vous dire, moi, comment j'ai découvert Maître Eckhart. J'étais très, très allergique à tout le discours dogmatique habituel du catéchisme. On disait Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, etc. Je me disais, c'est infantile. Et j'ai été attiré par l'Inde. Et donc, ma vie spirituelle s'est d'abord concentrée sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, où je trouvais qu'il y avait un langage où, justement, on ne voulait pas dire l'indicible. On était devant un langage apophatique qui est presque consubstantiel à ces traditions. Et en même temps, il y avait toute une série de conseils de vie spirituelle sur le lâcher-prise, l'abandon, la confiance en la vie. Et c'est chez Maître Eckhart, dans la tradition chrétienne, que j'ai retrouvé ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'une dimension apophatique, on ne dit pas qui est Dieu, sinon c'est de l'idolâtrie. Mm-hmm. Et puis on parle plutôt de la déité, même au-delà de tous les noms de Dieu. Et puis en même temps, on parle de la vie spirituelle, de l'abandon, qui ressemble au lâcher-prise de l'ego, tel qu'on trouve en Orient. Et donc, je trouve qu'il établit des ponts avec les autres traditions mystiques. Et en même temps, il reste moderne, parce qu'il a un langage qui touche à l'universel.
Oui, je dois répondre à ça.
J'ai
lu un autre auteur, comme Lao Tzu, par exemple.
C'est très
on
proche.
Trouve énormément de choses très proches également. Comment, à un moment donné, le langage devient à ce point radical qu'il dépasse tout ce qui est le phénomène de mode dans le langage ou un petit peu pour atteindre quelque chose effectivement d'assez éternel, d'assez intemporel. C'est vraiment très étonnant. Alors je pense que le langage parvient à ça quand l'écriture est importante. C'est vrai d'ailleurs d'un auteur de littérature. Un bon ouvrage de littérature nous fait atteindre quelque chose de l'essence de l'universalité également. Mais alors, chez Maître Eckhart, il faut dire ça, c'est vrai qu'il a un langage qui permet des ponts et des passerelles et un vocabulaire tout à fait intéressant qui touche à l'universalité, parce que dans son expérience du détachement, il nous fait découvrir ce qu'est l'homme dans son humanité. Et en même temps, la figure pour lui qui est par derrière, c'est la figure du Christ. Donc il nous invite aussi à relire le christianisme. Parce que pour lui, c'est le Christ qui est une vraie figure de détachement. Ce Christ dont tout le monde voudrait s'approprier ou dire un nom, hein, comme Pierre dit « tu es le Messie ». Relisons l'évangile, Jésus nous dit « mais il ne dit pas ça, enfin ». Voilà. Jésus est aussi celui qui se dérobe lui-même à toutes les emprises, à tous les attachements, à toutes les images et représentations qu'on voudrait donner de lui. Et c'est en ceci que le Christ montre ce qu'est vraiment l'humanité. Il nous montre que notre personne humaine, au fond, c'est quelque chose de profondément fragile, insaisissable, inachevé, jamais totalement défini.
Mais c'est tout pas à fait, mais ce qui est passionnant, ce qui est passionnant, c'est que du coup, le Christ n'est plus simplement perçu comme quelqu'un de très lointain, Dieu incarné, qu'on vénère, mais il est perçu comme un maître de vie intérieure. Et chacun peut suivre les pas du Christ en essayant de comprendre comment il a lui-même vécu, réagi face aux événements, face à ce qui lui était proposé, aux événements de sa vie, à l'acceptation de la croix, c'est pas rien. Et tous les commentaires que va faire Maître Eckhart sur la vie de Jésus nous aide les chrétiens à vivre. Et donc, on sort aussi du discours qui fait de Jésus un être totalement lointain, inaccessible, parce qu'il est Dieu.
Et un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus est tout sauf un modèle. Ou plutôt, s'il est le modèle, c'est justement parce qu'il est le modèle de ce qui est représentable. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il est vraiment le modèle à suivre parce que justement, il enlève tous les modèles tels qu'on les conçoit maintenant. C'est-à-dire la petite image bien commode de mon Jésus dans lequel je pourrais m'enfermer parce que c'est bien commode, parce que ça me permet de me définir moi. Mais justement, il est celui qui se dérobe toujours...
Oui, et en même temps, alors c'est vrai qu'il y a cette dimension apophatique chez Maître Eckhart, cette dimension christique aussi. Et en même temps, ce qui me touche beaucoup et qui fait que peut-être qu'il vaut mieux qu'il soit maître Eckhart finalement que saint Eckhart.
Oui, si finalement.
Mais oui, bien sûr, parce que c'est encore un maître de vie. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, en lisant ses sermons, peut-être que les saints sont trop loin de nous, d'une certaine façon, alors que maître Eckhart, c'est vraiment quelqu'un qui indique une voie très particulière et il donne des conseils extraordinairement pratiques. Et ce que je trouve très touchant, c'est ça, c'est qu'il part du plus basique du basique. Vous le citez d'ailleurs, par exemple, quand il dit « il ne faut pas fuir le monde, parce que si vous fuyez le monde, vous ne vous confrontez pas à ce travail quotidien qui doit se faire dans la vie ordinaire, dans la confrontation avec les choses les plus petites de la vie. » Donc, en ce sens, il part de la matière, de la boue du monde, et il dit « voilà, c'est dans cette confrontation-là que vous pourrez arriver petit à petit à l'expérience du verbe tel qu'on l'a vu développé dans son poème. » Et je trouve qu'en ce sens, il est profondément humain et en même temps profondément actuel.
Oui, parce que en fait, dans ses sermons, il ne fait pas de sermons. Et dans ses conseils, il ne donne pas de conseils.
C'est vrai.
Il faut que je précise un peu quand même. ou plutôt, quand il dit, par exemple, dans le livre de la Consolation divine, je vais donner, je ne me rappelle plus le nombre, tel 50 enseignements à peu près. Cherchez bien, vous en trouverez ou plus ou moins, mais pas ça, quoi. Donc il en donne plusieurs. Et dans ses sermons, il donne plusieurs figures. Il ne fait pas de traité de la vie spirituelle, ce serait trop facile. En fait, il multiplie les figures, les expériences, de manière à ce que chaque individu, là où il est, selon son expérience, puisse se sentir appelé, puisse être rejoint. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est ce qui en fait un auteur aussi un peu difficile, parce qu'on pourrait faire plus facile la vie spirituelle en disant le détachement, c'est d'abord première étape, c'est ceci, deuxième étape, c'est ceci, troisième étape, c'est là. Alors on pourrait se mettre sur un stade de l'échelle, justement, ça serait beaucoup trop facile. Il ne nous rend pas la vie facile. Voilà. Mais justement, du coup, il montre qu'on n'est jamais à un stade de la vie spirituelle. Il faut toujours se remettre en cause. C'est à chaque instant qu'on se forme ou qu'on se déforme et qu'il faut toujours se questionner sur là où on en est.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie d'Éric Mangin pour parler de Maître Eckhart à l'occasion de la sortie de Maître Eckhart ou La profondeur de l'intime, un essai sur Maître Eckhart, sa vie, sa pensée au seuil, et puis la traduction des sermons 87 à 105 sous le titre Le silence et le verbe. Éric Mangin, je voulais vous poser une toute petite question sur cette magnifique musique que vous avez choisie, que nous venons d'entendre.
J'aime bien cette musique d'un film de Philippe de Broca, parce qu'en fait, ce film montre à la fois une vie qui n'est pas forcément simple. C'est une famille à qui il arrive des tas de difficultés, des tas de tribulations, mais ils vivent ça avec une grande légèreté et une grande profondeur. Une belle illustration du détachement chez Maître Eckhart, qui n'est jamais une fuite du monde et des réalités ou du quotidien, mais qui est une manière de traverser les épreuves avec beaucoup de légèreté.
Alors c'est le film Le diable par la queue et la musique Jeanne de Georges Delerue. Et on avait écouté tout à l'heure Samuel Barber, qui était aussi un très très beau morceau de musique. Lélie Anvard.
Évidemment, on ne pouvait pas ne pas donner au moins un extrait d'un sermon de Maître Eckhart. Le choix est très difficile parce que évidemment ils sont très beaux les uns et les autres. Et alors, en l'occurrence, j'ai choisi de lire le sermon 52 que vous m'avez envoyé, Éric Mangin, parce que ce sermon 52, il est sur les fameuses béatitudes et que, il y a quelques semaines, nous avons reçu ici Jean-Claude Carrière qui a qui a parlé des béatitudes en termes légèrement désobligeants, et Frédéric Lenoir a défendu la notion de pauvreté dans les béatitudes, et nous avons eu beaucoup de mails d'auditeurs à ce propos, et donc je me suis dit quelle plus belle réponse à donner à tous ces mails et à ce petit débat qu'il y a eu entre vous, Frédéric, et Jean-Claude Carrière, que donc de lire juste quelques extraits, évidemment, de ce sermon dans lequel Maître Eckhart précise l'essence qu'il convient de donner à la notion de pauvreté. À la fois, ça commence par la pauvreté consentie et voulue, réelle, enfin, je veux dire, se dépouiller des biens de ce monde, mais évidemment, le sens le plus profond et le plus élevé, comme toujours chez Maître Eckhart, avec toutes ses strates de sens, c'est la pauvreté qu'il appelle le fait d'être pauvre en esprit.
Ce qui ne veut pas dire débile mental.
Absolument pas, c'est ce qu'on va voir. Au contraire, c'est une station très difficile et très élevée à atteindre. Enfin, très difficile à atteindre et très élevée. Et d'ailleurs, on va voir que c'est vraiment la parole de sagesse absolue. La béatitude ouvrit sa bouche de sagesse et dit « Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Tous les anges et tous les saints et tous ceux qui naquit jamais doivent faire silence quand parle la sagesse du Père, car toute la sagesse des anges et de toutes les créatures est une pure folie devant la sagesse insondable de Dieu. Celle-ci a dit que les pauvres sont heureux. Il est deux sortes de pauvreté, une pauvreté extérieure. Elle est bonne et il faut hautement la louer chez l'homme qui la pratique volontairement pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, car lui-même l'a pratiquée sur terre. De cette pauvreté, je ne veux pas parler davantage maintenant, mais il existe encore une autre pauvreté, une pauvreté intérieure, celle qu'il faut entendre par la parole de notre Seigneur quand il dit « Heureux sont les pauvres en esprit ». Je vous prie d'être ainsi pour que vous compreniez ce discours. Car je vous dis dans l'éternelle vérité, si vous n'êtes pas conforme à cette vérité dont nous voulons maintenant parler, vous ne pouvez pas me comprendre. Certaines personnes m'ont demandé ce qu'est la pauvreté en elle-même et ce qu'est un homme pauvre. Nous voulons y répondre. Est un homme pauvre celui qui ne veut rien et qui ne sait rien et qui n'a rien? Si on me demandait ce qu'est un homme pauvre qui ne veut rien, je répondrais. Tout le temps que l'homme est tel que c'est sa volonté de vouloir accomplir la toute chère volonté de Dieu, cet homme n'a pas la pauvreté dont nous voulons parler. Car cet homme a une volonté par laquelle il veut satisfaire à la volonté de Dieu, et ce n'est pas la vraie pauvreté. Car si l'homme doit être véritablement pauvre, il doit être aussi dépris de sa volonté créée qu'il l'était quand il n'était pas. Car je vous dis par l'éternelle vérité, tout le temps que vous avez la volonté d'accomplir la volonté de Dieu et que vous avez le désir de l'éternité et de Dieu, vous n'êtes pas pauvre, car seul est un homme pauvre, celui qui ne veut rien et qui ne désire rien. Est un homme pauvre, celui qui ne veut rien et qui ne sait rien et qui n'a rien.
Vraiment un très beau texte. Moi, je suis toujours très ému quand je l'entends. Très beau texte sur la pauvreté intérieure. Vous voyez, le point de vue de Maître Eckhart est toujours beaucoup plus difficile qu'un simple point de vue, parce qu'on nous dit être chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. Et ben là, il dit non, parce que faire la volonté de Dieu, c'est encore faire quelque chose, et c'est le plus souvent faire sa propre volonté. Donc c'est vraiment se vider de tout pour devenir ce lieu parfaitement libre, dans lequel la grâce de Dieu vient habiter. Voilà. Ce qui est encore plus beau, c'est que ce texte est un bel hommage à Marguerite Porret. Parce que Marguerite Porret, dans Le miroir des âmes simples anéanties, définit la liberté intérieure comme cette liberté de l'âme qui n'a rien, qui ne veut rien et qui ne connaît rien. Autrement dit, regardons l'histoire à nouveau, reprenons l'histoire. Maître Eckhart est à l'époque à Paris, dans le couvent des Dominicains, à l'époque où Marguerite Porrette est brûlée en place de grève. Dans le même couvent dominicain, il y a l'inquisiteur qui condamne Marguerite Porrette et Maître Eckhart. Tous les charismes sont présents. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est vraiment un très bel hommage qu'il lui fait. Et quelques années plus tard, et voilà, une très belle, même pas réhabilitation, une manière de dire, voilà, un grand auteur spirituel, un bel hommage à Marguerite Porrette. Je trouve ça vraiment très beau. C'est une pauvreté difficile, hein. Parvenir à un tel état d'esprit, une telle élévation d'esprit, pour y parvenir, il faut vraiment...
La base virale VPS a été mise à jour.
Étrangement pour arriver au non-agir.
Oui.
Et c'est toute la difficulté.
Oui, oui.
Alors on a parlé un peu du détachement, un peu de l'abandon, de la pauvreté. Pour terminer cette émission, on va prendre un peu de temps pour parler d'une autre notion centrale et peut-être une des plus importantes de son œuvre, qui est l'amour. Qu'est-ce que Maître Eckhart dit de l'amour et comment est-ce qu'il en parle ? J'imagine qu'il y a beaucoup de lieux, évidemment, où il en parle, mais dites-nous un peu ce qui vous paraît le plus essentiel.
C'est une grande notion dans le christianisme, l'amour, parce que Dieu est amour, parce que voilà. Mais la figure que j'ai retenue dans mon ouvrage, c'est la figure de Marie-Madeleine, justement autour du thème de l'intime. Marie-Madeleine, c'est une figure extraordinaire. Maître Eckhart lui consacre plusieurs textes. C'est cette figure de la force du désir, à la fois de la fragilité également. Marie-Madeleine aimait le Christ d'une manière un peu trop... possessive peut-être, et le Christ l'invite justement à rentrer dans cet amour plus profond qui consiste à aimer l'autre, non pas pour ceci ou pour cela, mais aimer ce qui dans l'autre est profondément insaisissable. Parce que quand même, le Christ, il se dérobe à Marie-Madeleine. C'est pas très gentil. Cette femme n'a jamais rien fait autre chose que de l'aimer. Et le texte de Maître Eckhart le dit très bien. Alors pourquoi le Christ se dérobe à elle? Ça vient pas de son côté. Elle aime parfaitement, nous dit Maître Eckhart. Alors, ça vient du Christ qui se dérobe comme pour lui montrer qu'aimer véritablement quelqu'un, c'est aimer ce qui en l'autre est parfaitement insaisissable. C'est très difficile parce que nous savons très bien que nous aimons les autres, ou nous aimons les choses pour telle ou telle raison, pour telle ou telle affinité, sur des critères extérieurs ou même intérieurs, parce qu'une personne est intelligente, par exemple. Eh bien, Maître Eckhart nous invite à rentrer dans cet amour plus exigeant, détaché, c'est-à-dire aimer l'autre, c'est aimer ce qui dans l'autre est parfaitement inappropriable. C'est reconnaître qu'il y a dans l'autre, et c'est la personne humaine, quelque chose que je ne pourrais jamais complètement maîtriser. Le grand danger dans l'amour, c'est quand on se dit, bah tiens, un tel ou une telle, ça y est, j'en ai fait le tour, je commence à connaître ou maîtriser complètement les choses. Alors là, ça devient un danger, quand on réduit l'autre à un objet qu'on pourrait clairement définir. Je parle d'un autre texte dans mon livre que j'aime beaucoup également, c'est le Banquet de Platon, avec la très belle figure d'Alcibiade à la fin, qui fait un très bel éloge de Socrate, plus bel éloge qu'on puisse faire, en disant ben, « Socrate, au fond, ce qui est extraordinaire en lui, c'est qu'on ne peut pas le définir. »
Ni le saisir.
Ni le saisir. C'est ça, la personne humaine. C'est saisir qu'il y a en l'autre quelque chose qu'on ne pourra jamais s'approprier.
C'est intéressant, parce que ce que vous dites, ça ne vous rappelle rien, Lélie, ce discours-là. On a reçu la semaine dernière Denis Marquet,
oui,
qui nous parlait de l'éducation et des enfants, et il disait exactement la même chose, presque mot pour mot, sur les enfants, en disant « les enfants ne nous appartiennent pas, c'est un mystère, et il faut effectivement respecter ce qu'il y a de plus insondable et de plus personnel en eux, pour pouvoir bien les éduquer. Il faut déjà accepter ça, ce caractère irréductible. » Donc on voit que c'est bien quand on peut parler de cet aspect du mystère de la personne humaine à la fois chez Maître Eckhart et à la fois chez les éducateurs.
C'est très important parce qu'on vit quand même dans un monde où on a tendance un petit peu à objectiver les choses et objectiver la personne humaine. En tout temps certainement, mais en particulier en ce moment, on peut définir une personne par des qualités extérieures, bien sûr. On peut la définir également par des qualités intérieures. Mais ce que montre Maître Eckhart, c'est qu'au fond, ce qui est le plus important dans notre humanité, c'est que l'homme se dérobe toujours à toutes les images et représentations. C'est qu'il est en réalité indéfinissable. Et ce n'est pas un mal, ce n'est pas un défaut. C'est ce qui donne à l'existence humaine toute sa densité et à la liberté toute sa force. Parce que l'existence, au fond, c'est le moment qui nous est donné pour nous définir, pour nous accomplir. Si on était déjà défini, ben, ma foi, il n'y aurait plus rien à faire.
Léon Var, il nous reste 1 minute 30. Vous ne voulez pas nous lire un petit texte sur Marie-Madeleine, par exemple?
Si, bien sûr, parce que, effectivement,
on là termine aussi, sur un texte de Maître Eckhart.
C'est vrai. Et sur l'intime, et sur l'amour, et sur ce que vous disiez, sur l'insaisissable du Christ, en fait, pour elle. On pourrait demander pourquoi elle s'approcha si près de lui alors qu'elle était une femme et que ceux qui étaient des hommes, l'un qui aimait Dieu, Pierre, l'autre qui était aimé de Dieu, Jean, avaient peur. La raison en est qu'elle n'avait rien à perdre, car elle était à lui, et étant à lui, elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur pour trois raisons. La première, c'est qu'elle était à lui. La seconde, c'est qu'elle était si loin de la porte des sens et à l'intérieur d'elle-même. La troisième, c'est que son cœur était avec lui. Là où il était, là était son cœur. C'est pourquoi elle n'avait pas peur. La seconde raison pour laquelle elle était si près de lui, c'est qu'elle désirait qu'on vienne la tuer. Puisque vivante, elle ne pouvait nulle part trouver Dieu. Son âme, au moins, trouverait Dieu quelque part. La troisième raison pour laquelle elle était si près, c'est que s'ils étaient venus et l'avaient tuée, elle savait bien que personne ne pouvait parvenir au royaume du ciel avant que le Christ y soit lui-même monté, et il fallait bien que son âme ait un soutien quelque part. Alors elle désirait que son âme soit avec lui au tombeau, et son corps près du tombeau. Son âme à l'intérieur et son corps tout près, car elle avait l'espoir que Dieu ayant fait une irruption dans l'humanité, quelque chose de Dieu serait resté là, dans le tombeau.
Cette émission touche à sa fin. Un petit mot pour l'agenda culturel, Lélie.
Oui, je voulais recommander comme, lecture complémentaire de votre livre, Maître Eckhart ou la profondeur de l'intime, un livre de Benoît Beyer de Ric, qui s'intitule Maître Eckhart, tout simplement, figure centrale de la mystique médiévale. C'est publié chez Entrelacs, dans la collection Sagesse éternelle. Et pourquoi c'est un complément à votre livre? Parce que autant vous parlez de cette intériorité, de cette profondeur intime de la pensée de Maître Eckhart, autant Benoît Beyer de Ric, dans cet ouvrage, pose vraiment les jalons historiques, biographiques, nous remet Maître Eckhart dans son contexte. Il y a d'ailleurs quelques images des Béguinas, des endroits dans lesquels il a vécu. Et voilà, c'est suivi d'une anthologie et c'est un très bon complément à la lecture de votre livre, Maître Eckhart ou la profondeur de l'intime.
Éric Mangin, vous vouliez parler de quelque chose ?
Oui, j'aurais bien aimé parler de l'ouvrage de Michael Fossel, ce qui s'appelle « La privation de l'intime », parce que c'est très intéressant en complément également, parce qu'il envisage cette question-là d'un point de vue politique et dans la société, en montrant qu'aujourd'hui on est dans une société où on invite beaucoup à la transparence et qu'il faut garder un petit coin secret quand même, malgré tout. Donc c'est une implication directe sur la politique et la société, donc je trouve que c'est aussi un bon complément.
Merci beaucoup, je rappelle vos ouvrages Maître Eckhart ou la profondeur de l'intime aux éditions du Seuil et puis la traduction des sermons 87-105, Le silence et le verbe également aux éditions du Seuil. Merci infiniment.
Merci à vous.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant 15 jours et la réécouter sur notre site franceculture.fr pendant 1000 jours. Cette émission est la dernière.